Bonjour.
C'est que j'ai pas salué tout à l'heure. Content de vous voir, revoir, découvrir. Ce matin, le passage biblique servant de base à notre réflexion est un peu plus long que d'habitude. Mais comme il forme un tout, il est difficile de n'en prendre qu'un morceau. Et je vous invite à lire dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, et on va lire les 30 et quelques premiers versets. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois, et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace, loin de là. J'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Bref, que ce soit eux, que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car comme il est écrit, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare « tout lui a été soumis », il faut de toute évidence en excepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu sera tout en tous. D'autre part, Pourquoi certains se font-ils baptiser au péril de leur vie? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc courir un tel risque en se faisant baptiser au risque de mourir? Et nous-mêmes, pourquoi affronterions-nous à tout moment des dangers de mort? Journellement, je vois la mort en face, frère. Aussi vrai que je suis fier de vous à cause de l'œuvre du Seigneur, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, notre Seigneur. Si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable combat contre des bêtes fauves, n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi cela m'a-t-il servi? Si les morts ne ressuscitent pas, alors, comme le dit le proverbe, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. J'arrête là la lecture de ce passage. Êtes-vous parmi les plus à plaindre des hommes parce que victime d'une tromperie? Êtes-vous les faux témoins d'une énorme supercherie? Avez-vous cru en vain? Votre foi repose-t-elle sur du vent? Est-elle une illusion? Sommes-nous encore à jamais perdus? Encore sous le poids de nos péchés? Alors qu'un de nos frères va bientôt décéder, alors que la mort et le deuil font régulièrement partie des choses à affronter au cours de notre chemin de vie, le sujet qu'aborde l'apôtre Paul dans ce passage, la résurrection, est certainement d'actualité, des plus cruciaux, des plus importants depuis des milliers d'années. Si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Il y avait cette problématique parmi certaines personnes au sein de l'église de Corinthe. Mais s'il n'y a pas de résurrection de mort, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. En réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Mensonge ou vérité? Mensonge ou vérité? Question clé, centrale. Toute la doctrine chrétienne, toute la théologie de l'Église, tout le récit biblique repose sur cette affirmation « Jésus-Christ est ressuscité ». Faut-il être fou pour croire à ce genre de choses? Faut-il être particulièrement naïf ou crédule pour croire à ce genre d'affirmation? Dans les sectes, il y a des gens de toute classe sociale, de tout niveau intellectuel, et même souvent des gens érudits qui se laissent embrigader. Ne dit-on pas ou ne pense-t-on pas un peu la même chose des évangéliques? C'est un peu n'importe quoi l'évangile, non? Ne sortez évidemment pas cette phrase du contexte de ma prédication, hein, sinon vous allez me faire dire l'inverse de ce que je veux dire. D'un point de vue tout à fait logique, si la résurrection n'existe pas, alors Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors il n'y a pas de pardon des péchés, car l'œuvre à la croix n'a pas été agréée par Dieu. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a peut-être même pas eu de croix, en fait. En tout cas, la mort n'a pas été vaincue. Pas de réconciliation avec Dieu, pas de salut, pas de vie éternelle, pas d'espérance, pas de vie après la mort. Et je vais même jusqu'à dire pas de Dieu le Fils incarné, pas de Saint-Esprit, et même pas de Dieu du tout. Pas de Dieu tel que la Bible le présente en tout cas. Car tout ce livre ne serait que mensonge. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu, dit Paul. Certains ne voudraient retenir que des éléments comme Dieu est amour ou Dieu veut notre bien. C'est évidemment vrai, mais si on ne garde que ça et que l'on enlève la résurrection, l'Évangile devient vide. L'Évangile devient vide, nul et non avenu. Peut-être qu'il restera une pensée très séduisante, mais pas un plan de salut accompli et valide. Sans résurrection, il n'y a plus de christianisme, plus au sens biblique du terme en tout cas. Voilà ce que martèle l'apôtre Paul, et moi aussi, et j'espère vous aussi. Si t'as un problème d'ordi, Pedro, ou bien si tu peux mettre la 7. On verra quand ça revient. Mais si tout est inventé, alors carpe diem, comme disait le poète Horace. Oui, la vie est alors trop courte, ne durant que quelques décennies au plus. Il faut se hâter d'en profiter. Profitons de la vie, assouvissons toutes nos envies. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ajoute alors Paul. C'est la logique si la résurrection n'existe pas. Tout cela n'a-t-il été inventé que pour nous, que nous nous tenions tranquilles, fidèles, dociles, obéissants ? C'est vrai, c'est bien pour les sociétés en général. Les chrétiens sont des gens plutôt soumis, respectueux, qui font pas trop de vagues, de bons citoyens. Ou tout cela n'a-t-il été inventé que pour soulager nos consciences, les laver à bon compte, pour que nous soyons en paix, grâce à un simple procédé psychologique, artificiellement en paix pour aujourd'hui et confiant un petit peu pour demain. Vraiment, belle invention, l'Évangile, non ? Non ! En réalité, le Christ est revenu à la vie. L'affirmation de Paul est sans équivoque. Ce doit être vrai, sinon tout l'édifice s'écroule. Mais au-delà d'une auto-affirmation, c'est surtout vrai parce que des centaines de gens l'ont vu de leurs yeux vus. Des centaines. Des centaines de gens ont vu Jésus en chair et en os ressuscité. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Témoignage oculaire. Témoignage oculaire. C'est la première catégorie de preuves. En substance, dit Paul, si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir des gens, aller voir ces gens et leur parler. Vous pouvez aller les voir et entendre leur témoignage verbal direct. Ils vous diront. Argument majeur au moment où il écrit sa lettre, des tas de gens peuvent confirmer. Vérifiez si vous voulez. Bon, d'accord, mais nous, quelques 200 ans plus tard, c'est un peu plus compliqué pour aller voir des témoins oculaires. Nous faut-il alors juste croire les textes ? Nous faut-il alors juste croire les textes ? Faire une confiance aveugle ? Ou plus exactement formulé, faut-il avoir la foi ? Étonnamment, l'étude sincère de l'Écriture, la méditation de tout cœur, parce que la parole est vivante, permet en effet d'arriver par la conviction que donne le Saint-Esprit, si on veut bien abdiquer et plier le genou devant Dieu qui se révèle, nous fait arriver à la conclusion que c'est vrai. Et ça a concrètement de l'effet dans nos vies. Si vous ne me croyez pas, lisez la parole. Et bien sûr, de tout votre cœur, demandez à Jésus de se révéler à vous. Ce matin, je faisais un échange de messages avec quelqu'un sur Le Bon Coin, alors pas de pub, non, sur un site internet. Je trouvais un gars qui vendait des interlinéaires grec-français et hébreu-français. Très bon prix. Ah, super, c'est justement que j'en cherchais depuis quelques mois. Et le gars, il dit, ouais, je les avais achetés, je les ai feuilletés juste une ou deux fois. Et j'ai bien peur qu'il n'ait pas ouvert plus ça que ça, la Bible, effectivement. Certainement qu'il voulait faire une recherche intellectuelle, peut-être bien motivé au départ, de dire, je vais creuser cette Bible dont tant de gens parlent. Apparemment, ça n'a pas dépassé le niveau juste de l'intellect pour lui. Et il ne semble pas avoir découvert là la parole de Dieu. Essayer de l'encourager un peu dans ce sens, que Dieu puisse effectivement interpeller cette personne. On peut effectivement lire la Bible et pas y voir Dieu. Mais si on la lit de tout son cœur, avec cette sincérité de recherche, je pense que Dieu se révèle vraiment. Je pense que Dieu se révèle vraiment. Demandez à Jésus de se révéler à vous, et il le fera. J'essaye, Pelrousse, ça marche, ça ? Non. Tu mets le suivant, la 8. S'il en était besoin, il y a encore plus. Au verset 8, dit Paul, « En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à celui qui suis venu après coup. » Après sa mort, après sa résurrection, si on y croit, après son ascension, si on y croit, quelques années plus tard, Jésus est apparu à Paul. Et ça l'a convaincu. Un persécuteur touché par la grâce de Jésus, un persécuteur devenu apôtre. Ce n'est pas anodin, et plus encore. Pendant des siècles, et jusqu'à aujourd'hui, Jésus apparaît encore à de nombreuses personnes à travers le monde, en vision, en songe, en des rencontres cœur à cœur. C'est vrai, c'est fou. Ça peut paraître complètement dingue ou illuminé à quiconque doute ou ne croit pas encore. Pourtant, oui, ces rencontres existent bel et bien, toujours aujourd'hui. Elles existent et font attester des tas de gens que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité. Des preuves supplémentaires dans cette même catégorie de témoignages, des rencontres avec Jésus. Il y en a beaucoup. Et si vous ne croyez pas, allez discuter avec ces gens. Allez discuter avec ces gens. Car en réalité, Christ est ressuscité. En réalité, Christ est ressuscité. Il est vivant. Deuxième catégorie de preuves que Paul mentionne, l'exemple de vie des chrétiens. En particulier, l'exemple de vie des chrétiens de son époque, prêts à risquer leur vie pour le nom de Jésus-Christ, à cause de leur foi en Christ. Était-il alors plus des surhommes que maintenant, pour qu'un très grand nombre d'entre eux soient prêts à être exclus, être prêts à être persécutés à cause de leur Seigneur Jésus-Christ? Tenait-il moins à la vie à l'époque qu'aujourd'hui? Pourquoi certains se font-ils baptiser au péril de leur vie? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc courir un tel risque en se faisant baptiser au risque de mourir? Et nous-mêmes? Demande Paul. Pourquoi frotterions-nous à tout moment des dangers de mort? Journellement, je vois la mort en face, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, notre Seigneur. Si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable combat contre des bêtes fauves, n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi cela m'a-t-il servi? Si les morts ne ressuscitent pas, pourquoi souffrons-nous tous ces dangers? Pourquoi ces combats? Pourquoi ces martyrs? Martyr, c'est la francisation d'un mot grec qui veut dire témoin. Témoin jusqu'au bout. Témoin prêt à mourir pour le nom du Seigneur. Mais pourquoi? Jouissons plutôt de la vie. Tel est le deuxième argument de Paul. On se dira peut-être que bien d'autres sont prêts à mourir pour leurs convictions religieuses. Pour certains, c'est avec violence, comme les kamikazes terroristes. Justement, cette violence, je pense, disqualifie leur motivation et leur croyance. Pour d'autres, c'est en suivant un gourou vers un suicide collectif ou ce genre d'horrible aberration qui disqualifie leur motivation et leur croyance. D'autres subissent effectivement, la persécution, voire la mort, en tant que minorité ethnique ou minorité religieuse dans telle ou telle région du monde. Pour le coup, cette persécution-là, comme toute autre persécution d'ailleurs, ne peut être acceptable. Mais c'est encore différent de ce que Paul met en avant. C'est différent du fait de choisir de suivre Christ au péril de sa vie, différent des conséquences possibles du fait de devenir chrétien, en quittant sa croyance ou sa non-croyance précédente pour devenir chrétien, pour vivre l'Évangile. C'est différent de choisir le salut et la vie éternelle en Christ pour croire en la résurrection passée de Christ et la résurrection à venir par Christ. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Des gens le feraient-ils si ce n'était pas vrai ? Des gens le feraient-ils si le Saint-Esprit ne les convainquait pas et si le Saint-Esprit ne les animait pas dès cet instant, ne les aidait pas dans ces circonstances très, très, très difficiles parfois, humainement non supportables ? C'est la question que pose Paul, en tout cas, et c'est la question à se poser. Peut-être certains d'entre vous ont-ils une traduction plus difficile à comprendre du verset 29, hein, qui dit quelque chose du genre, c'est une traduction plus littérale, « Autrement, que feront ceux qui reçoivent le baptême pour les morts ?» S'il n'est pas question que les morts se réveillent, pourquoi recevraient-ils le baptême pour eux ? Alors, je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail ce matin, mais si vous voulez plus d'informations sur le sujet, je les enverrai. J'ai lu la version Bible du Semeur, moi qui traduis de façon interprétative, une traduction qui, comme l'explique le théologien évangélique Henri Blocher, s'accorde bien au contexte du passage, qui parle en effet du risque de perdre la vie, risque que les chrétiens peuvent affronter pour la cause de l'Évangile, à cause de leur conversion, parce qu'ils sont effectivement persuadés qu'il y a une résurrection des morts. Cela s'accorde aussi bien au contexte général du Nouveau Testament qui associe à divers endroits le mot baptême à la mort du martyr. Se faire baptiser pouvait, dans des périodes de persécution, vouloir dire se trouver sous peu, associé aux morts, être mort soi-même, en tout cas physiquement, que l'on pouvait se faire tuer, et c'est encore vrai aujourd'hui dans certaines régions du monde, quand on quitte certaines religions, quand on quitte certaines communautés. Lisez les témoignages de conversion de musulmans ou d'hindouistes ou de guerrieros ou de narcotrafiquants ou bien d'autres dans les magazines de l'association Porte Ouverte, par exemple, aujourd'hui. Et vous verrez que le risque est toujours bel et bien présent dans beaucoup de coins du monde. On estime à 50 millions de morts volontaires, entre guillemets, pour et à cause de leur foi en Christ, Seigneur et Sauveur. Ça donne, malheureusement, du poids à l'argument de Paul. 50 millions de morts. En réalité, le Christ est bien ressuscité. De façon contre-intuitive pour nous, peut-être, dans notre culture occidentale confortable, ces martyrs, cette capacité surhumaine à tenir ferme dans la foi pour Christ jusqu'au bout, a aussi été un élément des plus interpellants et amenant à Christ de nombreuses personnes dans l'Empire romain des premiers siècles. Cet exemple a interpellé et touché beaucoup de gens. Ô mystère parfois des choix de Dieu. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Ainsi, la vie chrétienne commence ici, à notre conversion, mais elle ne se limite pas à la vie présente. Elle ne se réduit pas à la vie terrestre dans nos corps mortels subissant le péché. Ça serait un peu court sinon. Et surtout, on resterait toujours loin de la perfection de la communion qui nous attend avec Dieu. À cause de nos limites humaines ou du monde déchu alentour, et surtout de notre vieille nature qui nous fait encore chuter régulièrement. Franchement, si la proposition de Dieu n'était que ça, si la capacité de Dieu n'était que ça, si ce qu'il proposait à l'égard de ses enfants se limitait à ça, ben il ne serait pas l'Éternel, il ne serait pas le Tout-Puissant, ça serait une arnaque. L'accomplissement de Christ est bien plus parfait que ça. Bien plus beau que ça, bien plus glorieux que ça. Et ce n'est pas juste pour nous faire miroiter un mirage, pour nous faire tenir le coup ici-bas. Si notre espérance s'arrête à cette vie seulement, si notre décès est la fin finale et définitive, que nous mourions de vieillesse, de maladie ou par accident, comme tout être humain, alors nous sommes les plus à plaindre des hommes. Nous sommes les plus malheureux des hommes, les plus pitoyables, disent d'autres traductions. Déjà parce qu'on se serait fait berner, notre orgueil en prendrait un coup. Mais surtout parce que ça rimerait à quoi de placer sa confiance en un Dieu incapable de faire ce qu'il promet ? Ça rimerait à quoi de placer sa confiance en un Dieu incapable de faire ce qu'il promet ? Tout ne serait qu'illusion. Certains objecteraient que, quand même, rien qu'une vie terrestre, déjà le chrétien est plus heureux que l'homme du monde. C'est vrai qu'une heure de paix de Dieu vaut mieux que toutes les jouissances trompeuses que le monde peut offrir. Mais il n'y aurait nulle communion véritable avec Dieu si l'erreur que combat l'apôtre Paul était vraie. Nous serions les jouets d'une vaine illusion. Se nourrissant d'un mensonge, le chrétien n'aurait réellement en partage ici-bas que ses renoncements et ses combats. Et dans l'avenir, une déception pour toute espérance. Il n'y aurait en fait pas de chrétien sur terre, car pas de Christ, tel que dit dans l'Écriture. Les jouissances du monde ne seraient effectivement pas trompeuses, mais seraient effectivement ce qu'il faudrait rechercher pour un tant soit peu en profiter. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. J'aime pas trop cette façon de présenter, car par contraste, ça donne l'impression que la vie chrétienne est une vie de privation, d'abnégation, d'abandon de soi et de son bonheur, d'interdiction de profiter de bonnes choses. L'impression que la vie suite à la suite de Christ n'est qu'une... Ouais, que ça, qu'une vie de privation, d'abnégation, d'abandon de soi, de son bonheur personnel. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La vie chrétienne, c'est la vie. La vie chrétienne, c'est la vie. On peut certainement voir un certain nombre de choses sous l'angle de la privation. Et Satan ne se gêne pas pour insister sur cet aspect-là, pour décourager les chrétiens ou rebuter les non-chrétiens. L'Église elle-même, certaines églises en tout cas, ont largement abondé en ce sens au cours de l'histoire, malheureusement. Moi, j'aime mieux l'angle de prévention et de sagesse que Dieu recommande à l'être humain, et depuis longtemps. Tout m'est permis ! Bonne nouvelle, chrétien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Moi, j'aime bien ces versets. J'aime bien ces versets. Qui cassent notre mauvaise compréhension souvent, effectivement, de fait que Dieu, suivre Dieu, c'est abandonner ci, abandonner ça, mettre une croix là-dessus, mettre une croix là-dessus aussi, être obligé de faire ça, et obligé de faire ça aussi. Tout m'est permis. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais utilisez votre sagesse et votre discernement pour savoir si c'est utile, si ça édifie vous-même ou les autres, si c'est à la gloire de Dieu ou pas. Dieu est un peu trop confiant en nous, hein, en se disant ils ont de la sagesse, ils vont savoir décider. On peut s'appuyer sur Dieu pour nous donner cette sagesse, on doit demander cette sagesse. La vie chrétienne n'est pas privation, elle est discernement. La vie chrétienne n'est pas obligation, elle est liberté, mais liberté utilisée à bon escient. C'est vrai que l'on prive parfois notre vieille nature. C'est vrai que l'on frustre souvent notre ego, mais nous n'en sommes pas malheureux, au contraire, tout au contraire. Nous en sommes dans la paix et la joie de la communion divine et de la communion fraternelle. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Vous réussissez à le dire pour beaucoup de choses, où il y a encore pas mal de choses qui... Seigneur, j'ai besoin d'un peu de temps. Dans un monde en désespérance, qui est le plus malheureux ? Celui sans sauveur ou celui dont la vie est en Christ ? Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Mais quel fruit portez-vous alors? Des choses dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libéré du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. Il est bon de vivre dès maintenant la vie éternelle, de savoir pourquoi, en un seul mot, et pourquoi, en deux mots, l'on vit. Avoir du sens, jouir de la paix de Dieu, de la libération du péché, du pardon, de la joie de la communion divine, de l'amour du Père, de la communion fraternelle aussi, tout en profitant avec reconnaissance et modération, des fois, des bonnes choses que la création peut nous offrir. Notre foi n'est pas vaine, et je l'espère, nous sommes les plus heureux des hommes et des femmes. Jouissons-en, réjouissons-nous, et entourons celles et ceux dont le départ d'un être cher représente, à juste titre, un temps de tristesse et de vide. Mais nous nous reverrons bientôt, assemblés avec le Seigneur. Soyez fortifiés dans votre espérance. Soyez fortifiés en Jésus-Christ, le ressuscité, le premier ressuscité. Amen. Amen. Je vous invite à réfléchir quelques instants et à prier. Seigneur, dans un monde incrédule et moqueur, avec Satan ou nous-mêmes qui ressassons le doute des fois, nous perdons peut-être de vue cette certitude, cette affirmation de la résurrection. Pourtant, si on enlève ça, tout s'écroule et notre foi est vaine, nous serions de faux témoins, nous vivrions dans l'illusion. Merci parce que par ton Saint-Esprit, tu nous attestes le contraire. Merci parce que par ton Saint-Esprit, tu confirmes que tu es là, que tu existes, que tu es vivant, que nous sommes en communion avec toi. Ce n'est pas juste un effet placebo, un effet psychologique. Mais ô combien, Seigneur, nous avons besoin de tes encouragements renouvelés, du fait que tu fortifies effectivement nos convictions, nos certitudes en toi. Tu connais nos faiblesses, Seigneur. Mais merci pour la réalité de cette résurrection que des centaines de témoins ont pu attester du temps de Paul et que depuis des millénaires, des millions de gens peuvent aussi attester par l'expérience personnelle qu'ils ont pu faire d'une rencontre avec toi. Nous-mêmes aussi. Et nous à remémorer, Seigneur, ces premiers instants de rencontre avec toi. Et renouvelle chaque jour la joie de la rencontre et de la communion avec toi. Quelle tristesse de voir un monde sans espérance. Quelle tristesse de voir les gens avoir peur de la mort parce que, croyant que c'est une fin ultime. Merci pour la vie. Merci pour la vie en Jésus-Christ. Merci pour la vie éternelle déjà commencée, même si évidemment elle est altérée encore par mon péché, par tous mes manquements et mes faiblesses et par ce monde déchu aussi. Seigneur, oui, émerveille-moi de ton amour, de ta présence. Fortifie en moi cette espérance pour que je puisse la transmettre tout en la vivant moi-même plus intensément. Merci Seigneur déjà pour oui, la communion avec toi, la liberté par rapport au péché, la libération de la culpabilité par ton pardon. Merci pour la vie nouvelle, merci pour l'amour. Merci parce que tu nous transformes et tu nous donnes des capacités inattendues de pouvoir effectivement vivre un peu chaque jour, un peu plus chaque jour comme toi, à ton image, et être vecteur de paix et de joie en toi. Merci pour la résurrection, Seigneur. Merci pour ce plan à la fois fou, mais tellement extraordinaire. de ce que tu accomplis et de ce que tu nous offres à nous aujourd'hui encore. À toi toute la gloire. Oui, Jésus-Christ, toi, le vivant, le ressuscité, nous, vraiment, nous voulons dire toute ta gloire, te dire notre louange et nous appuyer sur ta bienveillance, Seigneur, et tes bienfaits à notre égard. Accompagne celles et ceux dans le deuil, celles et ceux, effectivement, dans la difficulté, la souffrance, le doute. Et on te remet toute la famille Ramascon, on te remet Jean, qu'il soit dans ta paix pleinement, Paulette également. Toutes celles et ceux qu'on peut connaître dans des situations similaires aussi. Merci Seigneur, parce que nos vies fragiles sont en ta main. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Amen.